Attention. Écoute.
Fermez les yeux.
Je préférerais qu'on sente un film avant de le comprendre.
T'as pas entendu comme un bruit ?
J'aimerais partager une petite réflexion qui m'est venue très récemment et que j'avais intégrée à un exposé plus général autour de la question de la rencontre entre l'Occident et le Japon au cinéma. En cherchant des films qui racontaient ce scénario de la rencontre, je me suis rendu compte qu'il y avait toute une histoire qui courait depuis le milieu du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, de films qui mettaient en scène la rencontre amicale, ou le plus souvent amoureuse, entre un personnage occidental, européen ou américain, et un personnage natif du Japon. Alors commençons du côté du cinéma américain, pour qui la figure de l'étranger, en général, et de l'asiatique en particulier, a toujours été un point problématique. Griffith déjà filmait la constitution de la nation américaine comme un organisme clos, repoussant vers les bords du cadre tout ce qui pouvait nuire à ses valeurs, à sa pureté et à sa destinée manifeste. Mais il a bien fallu au cours de son histoire que le cinéma prenne en charge l'autre, lui administre une place. Si les lois du spectacle cinématographique sont bien entendu déterminées par les lois sociales, il arrive que ces dernières se trouvent dépassées, prises de court par les possibilités de l'art. Ce qui peut sembler impossible ou intolérable dans la réalité peut se retrouver accepté et apprivoisé à l'intérieur du champ artistique. Dans les années 20, c'est l'acteur d'origine japonaise Sesue Hayakawa, qui sera évoqué dans le texte de Louis Deluc tout à l'heure, qui devient la première grande star d'origine asiatique à Hollywood. Mais cela ne dure pas et avec l'apparition du parlant, il sera chassé des États-Unis et tournera en Europe avec Max Ophuls et Marcel L'Herbier. De façon générale, qu'un personnage asiatique masculin soit représenté aux côtés de femmes blanches semblera aux Américains plus choquant que l'inverse. Dès l'indépendance des États-Unis, le gouvernement adopte plusieurs lois pour interdire les relations interraciales, loi qui reste en vigueur jusqu'en 1967. Et dans les premiers temps du cinéma, la peur de la miscegenation, du métissage, est très présente dans les films. Les Asiatiques américains s'illustrent dans des rôles de séducteurs qui menacent l'innocence des femmes blanches. Ainsi, en 1930, le Production Code finit par interdire les relations interraciales à l'écran, et je ne parle même pas des relations physiques, sexuelles, qui resteront longtemps le tabou ultime. Il faut attendre 1957 avec Sayonara, le film de Joshua Logan, pour que le sujet soit abordé. Le film montre entre autres l'affection mutuelle de l'américaine Eileen Webster et de l'artiste japonais Nakamura. Mais pour éviter de choquer le spectateur, c'est un acteur caucasien, Ricardo Montalban, qui interprète le rôle de Nakamura en grimaçant et en plissant des yeux tout au long du film. Il en est de même pour le film américain A Majority of One, sorti en 1961, où l'histoire d'amour entre un japonais et une américaine est interprétée par deux caucasiens. La femme américaine représentant la pureté de la nation, il est difficile pour le spectateur d'imaginer qu'elle puisse préférer et choisir un étranger pour fonder une famille. Ainsi, grâce à l'utilisation du yellow face, autrement dit le grimage, le maquillage en asiatique, aucun tabou racial n'est brisé. En revanche, le couple inverse semble poser moins de problèmes. Dans Sayonara, c'est ainsi le personnage de Marlon Brando qui séduit Anna Ogi, interprétée par l'actrice Miiko Taka.
I must return this rope.
Yes, ma'am. I want to know, do you love me or don't you? Because if you don't, then I'm going to have to find a way to live with it. And if you do, then...
Please, Doida.
Wait a minute. Now, I don't want you to tell me anything more or anything less than you feel in the very deepest part of you. Because what you answer to me now is going to affect us for the rest of our lives. Do you love me, Hannah Ogier, or don't you love me?
I'm so frightened and confused. I cannot think. I cannot even understand your thinking.
I'm not thinking. I'm not thinking. For the first time in my life, I'm not thinking and I don't care.
But, Lloyd, we must do the right thing.
Oh, what are you talking about, the right thing? We've been wasting two good lives trying to do the right thing. The right thing for Matsubayashi, the right thing for my father, the right thing for the military, the right thing for Japanese tradition, the right thing for the great white race.
But we have duties and obligations.
That's right. We do. We do have duties and obligations. And the first obligation we have is to love each other. to become man and wife and raise some clean, sweet children and give them the very best that we know how. And if we don't meet that obligation, we ain't gonna be any good to anybody.
We'd have a different world, come from different races.
Oh, honey, I want you to be my wife.
Le film raconte avec un brin de naïveté et beaucoup de folklore local des histoires d'amour difficiles entre soldats américains et femmes japonaises pendant la guerre de Corée, précisément au moment où la xénophobie américaine retrouvait un pic semblable à l'après Pearl Harbor. Le héros qu'incarne Brando, transféré au Japon, opère peu à peu une conversion à une culture qu'il méprise de prime abord. On peut aussi citer La Maison de Bambou de Samuel Fuller, qui 2 ans plus tôt, en 1955, est le premier film d'Hollywood tourné intégralement au Japon. C'est un film noir, au scénario assez complexe, mais qui entre autres thématise la relation compliquée entre les États-Unis et le Japon, à une époque où le souvenir d'Hiroshima est encore très vivace. Fuller met en scène un policier américain qui en quelque sorte va réparer l'outrage de la guerre en tombant amoureux d'une belle et douce japonaise. Et c'est vraiment en ces termes de réparation que Fuller conçoit sa romance. Et tout en conservant un aspect profondément exotique, orientaliste, il s'avère que ce type de représentation va entraîner aux États-Unis une tolérance plus grande envers la population asiatique et japonaise. Les femmes asiatiques deviennent même des figures d'épouses idéales pour les hommes américains, à la fois délicates, calmes et dévouées. De l'autre côté, dans le cinéma japonais, il existe un genre à part entière, le rashomon, sorte de mélodrame qui narre des histoires d'amour entre japonais et non-japonais. Dans un premier temps, au moment de l'invasion de la Chine, on montrait des chinoises qui tombaient amoureuses de soldats japonais, et reconnaissaient ainsi les bienfaits de la colonisation impériale. Dans un second temps, quand les États-Unis occupent le Japon, ce sont les japonaises qui tombent amoureuses d'américains et se laissent séduire par les valeurs de la démocratie occidentale. Le schéma semble réutilisable à l'envi. Du côté de l'Occident, on pourrait penser aussi aux très nombreuses adaptations de l'opéra de Puccini, Madame Butterfly, auxquelles se sont essayés aussi bien Fritz Lang, au tout début de sa carrière, que David Cronenberg, beaucoup plus tard et à sa façon. Mais tâchons de dépasser ces représentations pour passer à un autre versant de la rencontre entre occidentaux et japonais. En Europe, Alain René ou encore Chris Parker ont thématisé ces relations dans leurs films, en tissant l'expérience de la rencontre à l'intérieur même d'une expérience plus vaste de la distance et de l'écart.
J'ai tout vu, tout. Ainsi, l'hôpital, je l'ai vu, j'en suis sûre. L'hôpital existe à Hiroshima. Comment aurais-je pu éviter de le voir ?
Tu n'as pas vu d'hôpital à Hiroshima. Tu n'as rien vu à Hiroshima.
Hiroshima, mon amour, écrit par Marguerite Duras, montre un couple mixte et inverse la répartition des rôles. C'est une occidentale qui tombe amoureuse d'un japonais. Mais surtout, dans le film de René, l'histoire d'amour ne mène pas à l'absorption d'une culture par une autre. Il n'y a pas de rapport de domination. Les deux personnages sont égaux dans la souffrance et égaux devant l'impossible mémoire de cette souffrance. À l'ouverture du film, bercé par la musique de Giovanni Fusco, leurs deux corps nus et recouverts de cendres sont mêlés et cadrés en reléguant d'abord hors champ, puis dans la pénombre, le visage des acteurs. Avant d'être japonais ou français, ils prennent donc la forme d'un pur motif poétique, un pur mouvement de pensée qui conjoint l'amour et la mort. Mais le film s'ouvre aussi sur une incompréhension, une impossibilité à communiquer. « J'ai tout vu à Hiroshima », croit la française. Le personnage a circulé dans Hiroshima, a parcouru la ville en bus, a vu le musée, l'hôpital même, comment ne pas le voir? Mais dans cette visite, l'horreur de la bombe n'est nulle part. Tu n'as rien vu à Hiroshima. Ce n'était qu'une expérience, qu'une vision touristique de l'horreur. Le film pose de cette façon toute une série d'écarts, de contraires entre les deux personnages, et organise peu à peu des passages entre ces contraires, en une fusion progressive qui aboutit à une possible conciliation. Cette réconciliation multiple est rendue possible par une expérience faite par une Française en 1957 à Hiroshima. C'est une réitération. Sa brève rencontre amoureuse avec un Japonais répète un épisode traumatique de son passé, la mort de son amant allemand à la libération et la folie qui l'a suivie. Deux temps et deux lieux s'opposent, Nevers en 1945 et Hiroshima en 1957. Mais jamais le récit ne quitte le présent d'Hiroshima pour le passé de Nevers. Il n'y a aucun saut dans le temps. On assiste plutôt à une remontée progressive d'un temps dans un autre, doublée d'une contamination d'un espace par l'autre. C'est un retour non pas en arrière, mais en avant, selon l'expression de Bernard Pingot. Un passé refoulé, nié, reprend sa place dans le présent de la jeune femme et l'éclaire. Plus le film avance, plus Hiroshima et Nevers s'imposent comme deux réalités physiques sensibles, à égalité, deux pôles entre lesquels oscille le récit. Les deux temps, les deux lieux, fusionnent en un flux unique d'expériences, de pensées et d'émotions mêlées.
Qui es-tu? Tu me tues. Tu me fais du bien. Comment me serais-je douté que cette ville était faite à la taille de l'amour? Comment me serais-je douté que tu étais fait à la taille de mon corps même? Tu me plais. Quelle lenteur tout à coup, quelle douceur, tu ne peux pas savoir, tu me tues, tu me fais du bien. Tu me tues, tu me fais du bien. J'ai le temps, je t'en prie, dévore-moi, déforme-moi. Moi jusqu'à la laideur. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Dans cette ville et dans cette nuit, pareil aux autres au point de s'y méprendre. Je t'en prie. C'est fou ce que tu as une belle peau.
À la toute fin du film, l'étrangeté soudaine du Japonais ressurgit. Alors que l'errance des personnages les a menés dans une gare et que la Française médite sur sa capacité à oublier, un court dialogue s'établit entre le Japonais et une vieille dame, japonaise elle aussi, assise à leur côté. René fait le choix de ne pas faire figurer de sous-titres à l'écran. Ce choix montre que l'homme est alors autre, étranger, donc pour toujours lointain. Mais René n'a pas pour objectif de révéler la cause exacte de l'impossibilité de cet amour, comme si les différences culturelles qui se manifestaient là était l'obstacle qu'il serait fou de vouloir franchir. L'intrusion de la langue japonaise non traduite a sans doute plutôt pour fonction de nous surprendre, de nous faire prendre conscience que cet amour a une portée universelle. On avait en fait à ce stade du film oublié que le personnage était japonais. Dans son portrait du japonais, en appendice du scénario, Duras le décrit d'ailleurs avec un visage occidentalisé, très peu typé. Je cite « Si le spectateur n'oublie jamais qu'il s'agit d'un japonais et d'une française, la portée profonde du film n'existe plus. Si le spectateur l'oublie, cette portée profonde est atteinte. » En 1965, avec le mystère Kumiko, c'est Chris Marker, ami d'Alain René, qui consacre un premier film au Japon. Il part du réel de son expérience, et plutôt que de mettre en scène une fiction romancée, il imprègne son film de la subjectivité, de l'imaginaire du voyageur. La question de l'histoire et de son oubli n'est pas pour autant absente du film. Elle se tisse de façon souterraine et s'ancre dans l'atmosphère du Japon de l'après-guerre. Les années 60 et 70 voient émerger au Japon un discours idéologique où l'amnésie et l'oubli de la guerre sont nécessaires à la reconstruction du pays. Pendant les années 60, le pays connaît un accroissement économique vertigineux qui commence dès les années 50, en modifiant de façon significative l'espace urbain et la façon d'y vivre. Les Jeux Olympiques de Tokyo en 64, en même temps qu'ils exhibent un nouveau Japon, reflètent les signes de la guerre évités par le discours officiel. Le mystère Kumiko est tourné à Tokyo pendant les Jeux Olympiques. La ville de Tokyo et la notion d'inconnu apparaissent dans la figure d'une jeune femme, Kumiko, et à travers sa médiation. L'autre mystérieux et inconnu s'incarne donc dans le visage d'une femme, comme dans plusieurs autres films de Marker. Kumiko parle français, est née en Mandchourie mais vit au Japon depuis ses 10 ans. L'énonciateur essaye de connaître cette femme en lui posant des questions alors qu'elle déambule dans les rues de Tokyo.
Kumiko Muraoka, secrétaire. Plus de 20 ans, moins de 30, née en Mandchourie, aimant Giraudoux, détestant le mensonge, élève de l'Institut franco-japonais, aimant Truffaut, détestant les machines électriques et les Français trop galants, rencontrée par hasard à Tokyo, pendant les Jeux Olympiques. Kumiko n'est pas la japonaise modèle, à supposer que cet animal existe, ni la femme modèle, ni la femme moderne. Ce n'est pas un cas, ce n'est pas une cause, ce n'est pas une classe, ce n'est pas une race. Elle ne ressemble guère aux autres femmes, ou plus exactement, elle ne ressemble qu'à celles qui ne ressemblent guère aux autres femmes, ce qui fait déjà pas mal. Elle ne se regarde pas vivre. Elle est très étonnée de se trouver au centre d'un film qui porte son nom. L'histoire est un tigre qui la dévore, mais elle est le tigre. Elle n'a pas lu Borges, mais elle le sait. Elle sait qu'elle ne fait pas l'histoire, mais elle est l'histoire. Comme vous, comme moi, comme Mao Tse-tung, le pape et le raton laveur. Autour d'elle, le Japon.
Kumiko devient la guide de Marker et le miroir de ses interrogations. L'esprit japonais, tente-t-elle d'expliquer avec maladresse, c'est d'abord l'air mouillé. Hop, raccord malicieux sur une affiche des parapluies de Cherbourg, tout juste sortie au Japon, suivie d'une farandole de plans colorés, à base, cette fois-ci, de parapluies de Tokyo, qu'on dirait littéralement actionnés par la musique élégiaque de Michel Legrand. Rien qu'un collage marabout bout de ficelle pour qu'entre en collision l'étranger et le familier, pour rendre à leur simultanéité l'élan vers l'inconnu, le mystère et le retour à soi. Roland Barthes, quelques années plus tard, fera lui aussi un voyage au Japon et écrira l'un de ses plus beaux textes, L'Empire des Signes. Il vit là-bas ce que sa philosophie d'ici avait toujours traqué, la dissociation du signifiant et du signifié, la libération du sens, loin des conventions de l'expression. Je cite... La langue inconnue, dont je saisis pourtant la respiration, l'aération émotive, en un mot la pure signifiance, forme autour de moi, au fur et à mesure que je me déplace, un léger vertige, m'entraîne dans son vide artificiel qui ne s'accomplit que pour moi. Je vis dans l'interstice, débarrassé de tout sens plein. Chez Marker, c'est le même vertige, la même sensation de divagation et de forme pure qui domine. La question de la guerre fait également retour dans un film de fiction plus tardif qu'il nous importait de citer, même si l'action ne se passe pas à proprement parler au Japon. En 1983, dans son film Furio, Oshima décrit le choc des cultures entre officiers japonais et anglais dans un camp de prisonniers pendant la Seconde Guerre mondiale sur l'île de Java, en 1942. A l'inverse du film de René, c'est donc la guerre qui est le terrain explicite du film, son contexte immédiat, et c'est le désir qui devient le terrain implicite, souterrain, au sein des relations entre les personnages masculins. Le sous-texte homosexuel est omniprésent à propos de la fascination qu'exerce le major Jack Sellier, interprété par David Bowie, rebelle et ambigu, sur le rigide capitaine Yonoi, c'est Ryuichi Sakamoto, qui dirige le camp, obsédé par la discipline et le respect de la tradition. Oshima, nous dit Olivier Père, déplace l'héroïsme et la bravoure militaire sur le terrain du défi amoureux. Yonoi est happé par la beauté de Sellier dès qu'il le voit pour la première fois lors de son procès. Un travelling avant vient révéler le trouble du jeune officier japonais devant l'aplomb et l'indifférence du major anglais qui risque la peine capitale pour ses opérations de guérilla dans la jungle. Une autre séquence montre un baiser sidérant donné par Sellier à Yonoi. Le premier sort du rang et marche lentement et résolument vers Yonoi qui s'apprête à punir un anglais, d'une marche tellement souveraine qu'elle neutralise le temps d'un instant la force militaire. Les soldats japonais sont à ce moment précis tout à fait en mesure d'intervenir pour empêcher Sellier de parvenir à ses fins, mais ils restent pétrifiés, comme englués dans l'arrière-plan d'une transparence pourtant inexistante. Sellier embrasse Yonoi sur la joue et celui-ci perd tous ses moyens. Hubert Niogré écrit que Yonoï est, par ce baiser, terrassé par une réalité désirée depuis sa rencontre avec Célier, mais que sa fonction et sa culture rendaient impossible à assumer. En somme de la rencontre, Furio montre tout spécialement le désir au sens ordinaire du terme, c'est-à-dire au sens d'une force d'aimantation entre les êtres, ou encore à celui d'un élan irrépressible qui propulse un corps singulier vers un autre, lui aussi singulier. Cette attraction s'exerce à la fois grâce et à cause de l'écart entre les deux cultures, entre les deux civilisations ennemies. Finissons notre tour d'horizon par un autre film assez paradoxal, Lost in Translation, le deuxième long métrage de Sofia Coppola sorti en 2003. Paradoxe puisque le film ne met pas en scène la rencontre amoureuse entre occidentaux et japonais, ce sont deux personnages américains, interprétés par Bill Murray et Scarlett Johansson, qui se rencontrent à Tokyo, perdus à la fois dans une culture qu'ils ne comprennent pas, et qui va devenir une parenthèse critique pour affronter leur propre vide. Dans le film de Coppola, le Japon n'est pas le Japon réel, mais plutôt une toile de fond vaporeuse sur laquelle les émotions des deux personnages américains circulent. C'est un espace de rêve, un kaléidoscope impressionniste qui comprend le passage de Shibuya, très très fréquenté, le métro de Tokyo, un cours d'Ikebana, et puis le trajet d'une Shinkansen vers Kyoto et ses temples. Malgré tous ces panneaux électroniques et ces rues grouillantes, Tokyo semble toujours sans vie, un endroit profondément adapté à la solitude. L'exotisme se fait tout autant existentiel que culturel, donc, et la rencontre devient une rencontre de soi à soi. Les personnages s'attachent comme s'ils se regardaient dans un miroir, sur fond d'une mélancolie commune. Une courte séquence montre cependant Charlotte, Scarlett Johansson, assister à un mariage traditionnel entre un couple japonais, alors qu'elle est en visite à Kyoto. Dans cette scène, il s'opère une sorte de coupure dans le trajet du personnage. La visite de Charlotte multiplie les plans courts sur le paysage de Kyoto avec une lumière douce, sans aucune interaction entre le personnage et l'extérieur. Charlotte est comme plongée à l'intérieur d'elle-même, elle assiste à ce défilé d'images sans prendre part au réel du lieu. La bande-son vaporeuse achève de nous situer dans un temps et un espace flottant, une bulle intérieure que Charlotte déplace partout avec elle, un casque posé sur les oreilles. Mais en arrivant dans un complexe de temples, Charlotte assiste à un mariage traditionnel entre un couple japonais. Elle voit arriver, face à elle et depuis le fond du cadre, la petite procession. Elle fait un choix singulier en quittant la voie pavée et en se glissant sur le côté, parmi les arbres, pour observer le couple qui avance en costume traditionnel. Une série de plans en champ contre champ rend compte de son observation sans que l'on puisse vraiment interpréter ses réactions. On se place dans un étonnement, distant et froid, avec elle, et l'on imagine que cette image du mariage trouve un écho mystérieux en elle. Est-ce que Charlotte voit soudain son propre mariage dans une image d'illustration, une image impeccable, sorte de fac-similé de quelque chose qui aurait pu avoir un sens mais qui n'en a plus, ou qu'on ne devine pas ? L'image de ce couple reste pour elle une image à traduire, comme la langue japonaise elle-même et son étrangeté, sa différence, qui est le principal vecteur de comédie et de décalage dans le film. Le film de Coppola semble faire un écho au voyage en Italie de Rossellini, dans lequel un couple d'Américains voyage dans une Italie qui demeure étrangère. Le couple y découvre la fragilité des liens, la superficialité des relations qui l'unissent, ou plutôt le désunissent, l'ennui profond, le manque. Au fond, on sait la rencontre entre les deux personnages de Coppola impossible. Et pourtant, dans ce Japon-là, dans ce Japon de la différence, presque infranchissable, de l'exotisme et du dépaysement, un échange de tendresse s'opère.
Merci beaucoup, Élie, pour cette petite réflexion et ce tour d'horizon. On passe maintenant à la dernière partie de notre émission, durant laquelle on va vous lire un extrait, l'intégralité d'un texte de Louis Deluc.
Martine, ne faites jamais confiance à ces intellectuels avec leurs plumes baveuses. Ils écrivent n'importe quoi. Ce qui compte, c'est d'y voir clair. Stabilo.
Pourquoi dites-vous, dans votre préface, André Bazin nous manque ?
Stabilo.
Vous dites d'ailleurs que c'est plus un critique, c'est un écrivain de cinéma.
Regardez par exemple, ce livre, on voit tout de suite qu'il est nul. Il n'y a rien de stabiloté.
Et cette tâche ?
Alors que là, j'ai tout stabiloté.
T'as vu cette tâche ?
Ça, c'est un bon livre. C'est du lourd.
Alors Élie, qu'est-ce qu'on stabilote aujourd'hui ?
Eh bien, on stabilote un texte assez ancien sur le cinéma, un texte du réalisateur, scénariste et critique de cinéma Louis Deluc, intitulé « La beauté du cinéma », et qui est paru dans la revue Le Film, dont il était le rédacteur en chef en 1917, en pleine guerre donc. Louis Deluc est l'un des pionniers de la première avant-garde cinématographique française dans les années 20, à l'époque où on distinguait de façon assez polémique le cinéma d'avant-garde d'un côté et le cinéma populaire de l'autre, le cinéma de consommation courante. Et il reprenait alors et il illustrait les théories de Ricciotto Canudo, lequel visait à imposer l'autonomie de l'art du film, où il voyait une synthèse des arts de l'espace, architecture, peinture, sculpture, et des arts du temps, la musique et la danse. Le texte que nous avons choisi est présenté dans l'ouvrage de Daniel Banda et José Moore, Le cinéma naissance d'un art, premiers écrits, 1895-1920, et il s'agit tout autant d'une définition prophétique et passionnée de l'art du cinéma que d'une théorie de l'acteur à fonction de révélateur des foules, vous le verrez. Deluc mentionne à la fois Charlie Chaplin et Sesue Hayakawa, une autre star du cinéma muet, qui était aussi connue que Chaplin à l'époque, qui tournait notamment dans les films de Thomas Harper Ince, l'inventeur du western, et qui a été la première grande star d'origine asiatique d'Hollywood. On le retrouvera beaucoup plus tard, d'ailleurs, en 1957, dans le rôle du colonel Saito dans le pont de la rivière, sur la rivière Kwai. Pardon.
Le hasard d'une soirée au cinéma, dans une salle de boulevard, m'a donné une joie artistique si extraordinaire qu'elle semble ne plus dépendre de l'art. Je sais depuis peu que le cinéma est destiné à nous donner des impressions de beauté fugace et éternelle, comme seul nous en donne le spectacle de la nature ou, parfois, de l'activité des hommes. Ces impressions, vous savez, de grandeur, de simplicité, de netteté, qui brusquement vous font trouver l'art inutile. Tout à fait inutile, évidemment, l'art le serait, si chacun était capable de goûter consciemment la beauté profonde de la minute qui passe. Mais l'éducation des foules sensibles est trop lente pour que nous puissions la priver avant de nombreux siècles des œuvres d'art qui sont la confidence élevée de l'âme des autres. Le cinéma est justement un acheminement vers cette suppression de l'art qui dépasse l'art, étant la vie. Ce ne sera d'ailleurs qu'un moyen terme entre la stylisation et la réalité animée. Et il a, pour atteindre son propre summum, tant de progrès à conquérir que nous sommes loin de fixer le temps où la perfection de l'écran apprendra, et ce sera admirable, à voir dans la nature et dans le cœur humain. Sesue Hayakawa et Charlie Chaplin sont, quel que soit le film où ils apparaissent, deux expressions de beauté. Ces deux mimes ne procèdent pas de la même veine. Leur strict renoncement à la parole est aussi puissant chez l'un que chez l'autre. C'est par là qu'on peut les comparer, si l'on tient à les comparer. Mais à vrai dire, un lien, moins visible et plus émouvant, les réunit, c'est l'absence de toute intellectualité. Hayakawa, par sa race et ses dons nerveux, Chaplin, par sa naïveté mathématique et sincère, atteignent à des exécutions pareillement vraies, quoique, aux yeux de la foule, pareillement outrées. Seulement de Chaplin, on peut dire qu'il a un talent, et de Hayakawa, on ne peut rien dire. C'est un phénomène. Explication du reste, pas très opportune. Explication à peine, constatation plutôt des fausses différences et des fausses ressemblances que l'on adopte inconsciemment, alors qu'il y en a d'autres si fortes avec des causes et des buts si utiles à découvrir. Hayakawa domine les foules par sa mélancolie. Encore une fois, je ne parle pas de talent, je considère ses acteurs, lui surtout, comme une force naturelle et son visage est comme une œuvre de poète dont le pourquoi ne nous importe pas, quand notre avidité du beau y trouve la note ou le reflet espéré. Dans sa mélancolie, oui, mais oui, ce n'est pas sa cruauté féline et implacable, sa brutalité mystérieuse, sa haine de qui résiste, son mépris de qui obéit, non, ce n'est pas cela qui nous l'impose, et pourtant, il n'y a que cela dont on parle. Et sa mélancolie, ses yeux si froids devant la douleur que, ouverts, ils sont comme s'ils étaient fermés pour toujours, et surtout son sourire, d'un dessin étrange, d'une férocité d'enfant, pas même, une férocité de puma ou de jaguar, et ce n'est plus de la férocité. La beauté de Sesue Hayakawa est douloureuse. Peu de choses, au cinéma, peuvent, comme la lumière et le silence de ce masque, nous révéler qu'il y a des êtres seuls. Je crois bien que les isolés, et ils sont en nombre, retrouveront leur propre désespérance sans recours dans la mélancolie intime du sauvage Hayakawa. Et Charlot ? Ah oui, c'est autre chose ? Pas si vite. Oui, autre chose, je l'ai dit parce qu'un auteur phénoménal n'est pas absolument la même chose qu'un phénomène. Mais le charme, là aussi, domine. Il dépasse l'art de l'acteur. Art de tradition, de trucs, de blagues, d'acrobaties, excentricité et clownerie, mais prodigieuse vérité, au fond, vérité de celui qui travaille pour lui plus que pour le spectateur. Charlie Chaplin s'amuse au moins autant que nous à ses films et ce n'est pas loin du maximum. Il s'amuse trop. Il s'amuse comme les gens tristes. Et ne me dites plus qu'il ne faut pas parler de la mélancolie de Charlot. C'est par elle qu'il s'attache tant de délicat que sa folie baroque ne suffirait pas à lui conserver. Et voilà son charme. Les latins n'obéissent pas à qui ne les charme pas. Et ils obéissent à Charlot comme à Sesue Hayakawa. Je n'ai jamais vu une salle résister à l'emprise de ces deux hommes, comprenez-moi. Le spectacle de la vraie beauté nous révèle à nous-mêmes. Et reconnaître, derrière la volonté tragique d'Hayakawa et la frénésie de Chaplin, un écho de la douleur et de rêve, tel est le secret d'un engouement. Le cinéma fera connaître bien des choses du monde et à nous tous, et de nous-mêmes à nous-mêmes. Il est temps de passer à la toute dernière partie de l'émission, consacrée donc à nos conseils littéraires, les nouveautés littéraires donc disponibles à la librairie de l'Institut Lumière.
Eh bien oui, pour les nouveautés, on commence par une réédition avec La sagesse du chef opérateur de Philippe Rousselot aux éditions Jean-Claude Béard. C'est un petit livre de 110 pages qui nous parle du quotidien du chef opérateur, de ses questionnements, de son étroite collaboration avec le réalisateur et les autres départements du film. À la fois très didactique et très personnel, ce n'est ni un guide ni un manuel à l'usage d'eux, mais plutôt une réflexion lumineuse nourrie d'une longue expérience dans le cinéma. Philippe Rousselot a notamment travaillé sur Entretien avec un vampire et Au milieu coule une rivière, Thérèse d'Alain Cavalier, Les liaisons dangereuses ou La reine Margot. Je vous lis un petit extrait. La première question du jour se pose en regardant la lumière et le ciel se reflétant sur l'eau. Comment, de quelle manière filmer ce paysage? Où mettre la caméra? Quel mouvement lui donner? Où placer le point de fuite, la ligne d'horizon? Quel filtre, quel objectif utiliser? Comment décrire ce qu'on ne peut encore voir, comme la rive opposée, cachée par l'arc de la terre, et qui fait que ce pont sur l'eau s'étire à l'infini? Toutes ces questions sont étrangères au film, à la journée de travail qui commence, mais font partie d'une pratique quotidienne, souterraine et semi-consciente. Pratique d'un rendre compte des impressions fugitives que sont ces bribes de paysages perçues en chemin. Exercice qui consiste à voir les choses à l'intérieur d'un rectangle, à évaluer des contrastes, des rapports de couleurs, des accords et des ruptures. Voilà, c'est la sagesse du chef opérateur de Philippe Rousselot aux éditions Jean-Claude Béart. Deuxième parution, c'est un recueil de textes, Cinéma en commun, au pluriel, écrit par Robert Bonamy aux éditions de L'Œil. Robert Bonamy est maître de conférences en études cinématographiques à Grenoble, et ses travaux récents concernent le cinéma le plus contemporain, particulièrement dans ses manières d'envisager les problèmes politiques des zones d'inimitié et les inventions esthétiques du commun. Il a écrit sur Tariq Teguia, Nicolas Claude et Elisabeth Perceval, Kelly Richard, Lav Diaz, Sharounas Bartas, Claire Denis, Ghassan Salab, Robert Kramer ou Pierre Créton. Troisième parution, importante et imposante, Le sel du présent, chronique de cinéma de Éric Rohmer aux éditions Capricci. Le recueil, sous la supervision de son biographe Noël Herp, reprend près de 200 textes parus entre 48 et 59 pour les revues Art, La Parisienne et Opéra. Des textes, entre guillemets, plus désinvoltes que ceux qu'il a produits pour les cahiers du cinéma, des critiques moins théoriciennes, plus à vif, plus provocantes, aux prises avec l'actualité cinématographique la plus immédiate. C'est Le sel du présent, chronique de cinéma par Éric Rohmer aux éditions Capricci. Enfin, Parole de cinéma nouvelle vague au pluriel, aux éditions Marest, et est un recueil de 29 entretiens menés par Noël Simsolo entre 69 et 85, quand il exerçait comme critique de cinéma tant pour la presse écrite que sur les ondes de France Culture. Les entretiens, pour la plupart inédits, mettent en lumière aussi bien des cinéastes français, Chabrol, Truffaut, Rohmer, Rivette, Calmant, Herzog, Fassbinder, japonais, Oshima, Yoshida, des comédiennes aussi, Bulle Ogier, Ingrid Cavan, ou des collaborateurs artistiques. Ces paroles de cinéma, nouvelle vague, aux éditions Marest.
Merci beaucoup à tous pour votre écoute, et on vous retrouve dans un mois environ pour le prochain numéro, le numéro 8 de L'Encre et la Lumière, bientôt un an. À très vite sur Transistor.
Je vais mettre la radio. J'aime bien la radio. Il suffit d'allumer. On tombe toujours pile sur la musique qui nous trottait tout au fond. Tu vas voir, c'est magique. 1, 2, 3.